le chemin du progrès, marcher selon l'esprit. Nous arrivons maintenant au 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Mais avant d'en commencer l'étude, nous pourrions résumer le contenu de toute la deuxième section de la lettre, allant du chapitre 5, verset 12, à la fin du chapitre 8, en deux expressions, contenant chacune un contraste et marquant chacune un aspect de l'expérience chrétienne. Ce sont « en Adam » et « en Christ », Romains 5, 12 à 6, 23. Et « dans la chair » et « dans l'esprit », Romains 7 à 8, 39. Il est très important que nous comprenions la relation qui existe entre ces quatre termes. Les deux premiers sont objectifs, ils expliquent notre position en Adam, en Christ. D'abord ce que nous étions par nature et ensuite ce que nous sommes maintenant par la foi dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Les deux autres termes sont subjectifs et s'appliquent à notre marche, c'est-à-dire à notre expérience pratique. Les Écritures nous montrent clairement que les deux premiers termes ne présentent qu'une partie de la vérité et que les deux autres sont nécessaires pour la compléter. Nous pensons qu'il est suffisant d'être en Christ, mais nous avons à apprendre qu'il nous faut aussi marcher dans l'esprit. Romains 8, verset 9. L'emploi fréquent du mot « esprit » dans la première partie de Romains 8 sert à souligner cette autre leçon importante de la vie chrétienne. La chair et l'esprit, donc. La chair est liée à Adam. L'esprit est lié à Christ. Nous laisserons de côté la question maintenant réglée de savoir si nous sommes en Adam ou en Christ. Et nous nous demanderons, est-ce que je vis dans la chair ou dans l'esprit ? Vivre dans la chair, c'est faire quelque chose comme venant de moi-même, étant en Adam. C'est tirer ma force de la vieille source de vie que j'ai héritée de lui, si bien que je trouve dans mon expérience toutes les dispositions au péché d'Adam. Et nous savons tous qu'elles portent leurs fruits. Or, il en est de même pour tout ce qui est en Christ. Pour posséder dans mon expérience ce qui est vrai de moi en lui, je dois apprendre ce qu'est la marche selon l'Esprit. Le fait que ma vieille nature a été crucifiée en Christ est acquis dans le passé. Et c'est une réalité du présent que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Mais si je ne vis pas dans l'esprit, ma vie sera en contradiction avec le fait que je suis en Christ. Car ce qui est vrai de moi en lui ne se manifeste pas en moi. Je puis réaliser que je suis en Christ, mais il se peut aussi que je me rende compte que mon vieux tempérament se manifeste encore très fortement. Pourquoi ce dilemme ? C'est que je saisis la vérité seulement d'une manière objective, alors que ce qui est vrai objectivement doit aussi devenir vrai subjectivement. Et cela se fera dans la mesure où je vis dans l'esprit. Non seulement je suis en Christ, mais le Christ est en moi. Et de même que physiquement l'homme ne peut vivre et travailler que dans l'air et non dans l'eau, de même, spirituellement, Christ demeure et se manifeste non dans la chair, mais dans l'esprit. C'est pourquoi, si je vis selon la chair, je m'aperçois que ce qui est à moi en Christ est pour ainsi dire tenu en suspens en moi. Bien que, en fait, je sois en Christ, si je vis dans la chair, c'est-à-dire dans ma propre force et selon ma propre volonté, je m'aperçois avec consternation que, en pratique, ce qui est d'Adam, c'est ce qui est d'Adam qui se manifeste en moi. Si je veux connaître en pratique tout ce qui est en Christ, il faut que j'apprenne à vivre dans l'esprit. Vivre dans l'esprit, cela signifie que je me confie au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse en moi ce que je ne puis pas faire moi-même. Cette vie est complètement différente de celle que je vivais naturellement par moi-même. Chaque fois que je suis en face d'une nouvelle exigence du Seigneur, je regarde à lui pour qu'il accomplisse ce qu'il attend de moi. Je n'ai pas à essayer, mais à me confier. Je n'ai pas à lutter, mais à me reposer en lui. Si j'ai un caractère irritable, des pensées impures, une langue trop vive ou un esprit critique, je ne chercherai pas à me transformer par un effort de volonté, mais je me considérerai comme mort en Christ à l'égard de toutes ces choses, et je regarderai à l'Esprit pour qu'il produise en moi la pureté, l'humilité ou la douceur dont j'ai besoin. C'est là ce que signifie cette parole « Demeurez tranquille et contemplez la délivrance que l'Éternel va vous accorder » Exode 14, 13. Plusieurs d'entre nous, nous avons sans doute fait une expérience semblable à celle-ci. On nous a demandé d'aller voir un ami et vous saviez que cet ami n'est pas très aimable, mais vous vous êtes confié au Seigneur pour qu'il vous aide dans cette tâche. Vous lui avez dit, avant de vous mettre en route, que par vous-même, vous alliez inévitablement au-devant d'un échec et vous lui avez demandé tout ce qui vous était nécessaire. Alors, à votre grande surprise, vous ne vous êtes pas senti énervé, bien que votre ami ait été tout sauf aimable. Au retour, en vous rappelant cette expérience, vous vous êtes réjoui d'être resté si calme et vous vous êtes demandé si vous le resteriez aussi une prochaine fois. Vous étiez surpris de vous-même et vous en cherchiez une explication. Cette explication, la voici. Le Saint-Esprit vous a gardé et soutenu. Malheureusement, nous ne faisons ce genre d'expérience que de temps à autre, et pourtant, ce devrait être notre expérience continuelle. Lorsque le Saint-Esprit prend les choses en main, nous n'avons nul besoin de nous faire violence. Il ne s'agit pas de serrer les dents en pensant qu'ainsi nous pourrons contrôler nos réactions et remporter la victoire. Non, là où il y a une véritable victoire, il n'y a point d'effort charnel. C'est le Seigneur qui nous porte glorieusement à travers les difficultés. Le but de la tentation est toujours de nous amener à faire quelque chose. Durant les 3 premiers mois de la guerre sino-japonaise, les Chinois avaient perdu un grand nombre de chars, si bien qu'ils étaient incapables de faire face aux chars japonais, jusqu'à ce que la tactique suivante ait été conçue. Un seul coup de fusil devait être tiré sur un char japonais par l'un des meilleurs tireurs en embuscade. Après un laps de temps important, ce premier coup devait être suivi d'un second, puis après un autre silence, d'un nouveau coup, jusqu'à ce que le chef de char, désireux de découvrir l'origine du trouble, sorte la tête pour jeter un coup d'œil autour de lui. Le coup suivant, soigneusement visé, devait mettre fin à ses jours. Aussi longtemps qu'il restait à l'abri, il était en parfaite sécurité. Tout ce plan n'avait pour but que de l'attirer au dehors. De la même manière, les tentations de Satan n'ont pas pour premier but de nous faire commettre quelque chose de particulièrement mauvais, mais simplement de nous amener à agir dans notre propre énergie. Et dès que nous sortons de notre retraite pour agir sur cette base, il a remporté la victoire sur nous. Tant que nous ne bougeons pas, tant que nous ne sortons pas de l'abri en Christ, pour revenir dans le domaine de la chair, il ne peut pas nous atteindre. Le chemin de la victoire selon Dieu exclut tout ce que nous voudrions faire par nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui serait en dehors de Christ. Il en est ainsi parce que dès que nous faisons un pas, nous courons un danger à cause de nos inclinations naturelles qui nous poussent dans la fausse direction. Où devons-nous donc chercher le secours? Lisons maintenant Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. En d'autres termes, ce n'est pas contre nous que lutte la chair, c'est contre le Saint-Esprit. Car il y a entre eux une telle opposition, et c'est l'Esprit, et non pas nous, qui rencontre la chair et triomphe d'elle. Quel est le résultat? Vous ne faites pas ce que vous voudriez. Je pense que nous avons souvent mal compris la dernière proposition de ce passage. Considérons bien ce qu'il signifie. Que ferions-nous naturellement? Nous nous élancerions dans une ligne d'action dictée par nos propres instincts et en dehors de la volonté de Dieu. Notre refus d'agir par nous-mêmes a pour effet de laisser au Saint-Esprit la liberté de dominer sur la chair qui est en nous et de la mettre de côté de sorte que nous ne ferons pas ce que nous serions enclins à faire naturellement. Nous n'agirons pas selon nos inclinations naturelles. Nous ne suivrons pas une ligne ou un plan que nous aurions choisi par nous-mêmes, mais nous trouverons notre satisfaction à rester dans son plan parfait. C'est pourquoi nous avons ce principe. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Galates 5,16. Si nous vivons dans l'esprit, si nous marchons par la foi dans le Christ ressuscité, nous pouvons réellement demeurer tranquilles, tandis que l'esprit remporte chaque jour de nouvelles victoires sur la chair. Notre victoire consiste à nous cacher en Christ et à nous confier dans une simple assurance en son Saint-Esprit qui triomphe en nous de nos passions charnelles par ses désirs nouveaux. La croix nous a été donnée pour accomplir le salut pour nous. L'Esprit nous a été donné pour produire le salut en nous. Christ ressuscité et élevé au ciel est le fondement de notre salut. Christ, dans notre cœur, par l'Esprit, en est la puissance. Nous avons lu en Romains 7 « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ ». Cette acclamation de Paul est fondamentale, et fondamentalement, la même que celle qu'il exprime en d'autres termes dans Galates 2:20, ce que nous avons pris comme titre de nos méditations. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Nous avons vu la place importante qu'occupe le mot « je » dans tout ce chapitre de Romains 7, qui aboutit à ce cri de détresse, « Misérable que je suis ». Puis vient le cri de délivrance, « Grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ ». Il est clair que la découverte qu'a fait Paul est celle-ci, la vie que nous vivons est la vie de Christ seul. Nous pensons à la vie chrétienne comme à une vie changée, mais ce n'est pas cela. Dieu nous offre une vie échangée, une vie substituée, et Christ en nous est en nous notre substitut. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette vie n'est pas quelque chose que nous devons produire en nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est la vie même de Christ qui se reproduit en nous. Combien de chrétiens croient-ils à la reproduction dans ce sens-là, comme à une expérience plus profonde de la régénération? La régénération signifie que la vie de Christ est implantée en nous par le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance. La reproduction va plus loin. Elle signifie que cette nouvelle vie s'accroît, se développe et se manifeste progressivement en nous jusqu'à ce que la personne même de Christ commence à se reproduire dans nos vies. C'est ce que veut dire Paul lorsqu'il dit « souffrir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous » Galates 4,19. Laissez-moi illustrer cela par une anecdote rapportée par un pasteur. J'arrivais un jour dans le foyer d'un couple chrétien qui m'avait demandé de prier pour eux. Je leur demandais la cause de leurs difficultés. « Nous venons de passer par de mauvais moments », confessèrent-ils. « Nous nous irritons si facilement à cause des enfants. Et ces dernières semaines, nous nous sommes mis en colère plusieurs fois par jour. Nous déshonorons réellement le Seigneur. Voulez-vous lui demander de nous donner de la patience ?»« C'est la seule chose que je ne puisse pas faire », répondis-je. « Que voulez-vous dire ? » s'étonnèrent-ils. « Je veux dire qu'une chose est certaine, » répliquai-je, « c'est que Dieu ne répondra pas à votre prière. » Alors ils murmurèrent avec étonnement. « Pensez-vous vraiment que nous sommes allés si loin et que Dieu n'est plus disposé à nous entendre quand nous lui demandons de nous rendre patients ?»« Non, ce n'est pas tout à fait cela. Mais j'aimerais savoir si vous n'avez jamais fait de cela un sujet de prière. »« Vous l'avez fait. Mais Dieu a-t-il répondu ?»« Non. » « Savez-vous pourquoi ? C'est parce que vous n'avez pas besoin de patience. » Alors les yeux de l'épouse étincelèrent. « Que voulez-vous dire ? Nous n'avons pas besoin de patience alors que nous nous irritons toute la journée. Que voulez-vous vraiment dire ? Ce n'est pas de patience dont vous avez besoin, répondis-je. C'est de Christ. » Dieu ne nous donnera pas l'humilité ou la patience ou la sainteté ou l'amour comme des dons isolés de sa grâce. Il ne détaille pas sa grâce pour nous la distribuer par petites doses, accordant une mesure de patience à celui qui est impatient, un peu d'amour à celui qui est orgueilleux. Il nous a fait un seul don qui répond à tous nos besoins, son Fils, Jésus-Christ. Et lorsque je regarde à lui pour qu'il vive sa vie en moi, il sera humble et patient, et plein d'amour et tout ce dont j'ai besoin à ma place. Souvenons-nous de ces paroles de la première épître de Jean. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, versets 11 et 12. La vie de Dieu ne nous est pas donnée comme un objet séparé. La vie de Dieu nous est donnée dans le Fils. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains 6, 23. Notre relation avec Christ est notre relation avec la vie. C'est une expérience bénie que de découvrir la différence qu'il y a entre les grâces chrétiennes et Christ. De connaître la différence entre l'humilité et Christ, entre la patience et Christ, entre l'amour et Christ. Souvenons-nous encore de ce qui est dit dans 1 Corinthiens 1:30. Jésus-Christ a été fait pour nous de la part de Dieu, sagesse et justice et sanctification et rédemption. La notion courante de la sanctification veut que chaque point particulier de la vie soit rendu saint. Mais ce n'est pas la sainteté, c'est le fruit de la sainteté. La sainteté, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus en nous qui est cette sainteté. Tout est compris en cela. L'amour, l'humilité, la force, le contrôle de soi. Aujourd'hui, nous avons besoin de patience. Il est notre patience. Demain, nous aurons besoin de pureté. Il est notre pureté. Il est la réponse à tous nos besoins. C'est pourquoi Paul parle du fruit de l'esprit comme d'un seul fruit, Galates 5, 22, et non de plusieurs fruits, de dons séparés. Dieu nous a donné son Saint-Esprit, et quand nous avons besoin d'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, et quand nous avons besoin de joie, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est toujours vrai. Peu importe notre besoin personnel ou les mille et une choses qui nous manquent, Dieu a une seule réponse, mais une réponse suffisante, son Fils Jésus-Christ. Et il est la réponse à tous les besoins de tous les hommes. Comment pouvons-nous connaître une plus grande mesure de Christ? Seulement par une conscience plus grande de nos besoins. Certains chrétiens ont peur de découvrir des insuffisances en eux-mêmes. Aussi ne grandissent-ils pas. La croissance en grâce est la seule manière dont nous puissions grandir. Et la grâce, nous l'avons dit, c'est Dieu qui agit à notre place. Nous avons tous le même Christ demeurant en nous. Mais la révélation d'un nouveau besoin nous amènera spontanément à nous confier en lui pour qu'il vive sa vie en nous dans ce point particulier. Une plus grande capacité signifie une connaissance plus grande des ressources de Dieu. La conquête d'un nouveau terrain demande un nouvel abandon et une confiance en Christ renouvelée. Christ, ma vie, est le secret de l'accroissement. Nous avons parlé de nos efforts et de notre abandon et de la différence qui existe entre ces deux positions. Croyez-moi, c'est la même différence que celle qu'il y a entre le ciel et l'enfer. Ce n'est pas simplement une belle pensée dont il est bon de parler, c'est la réalité. Seigneur, je ne puis pas le faire. Je n'essayerai donc plus de le faire. C'est le point où la plupart d'entre nous subissons un échec. Seigneur, je ne puis pas. C'est pourquoi je retire mes mains. Dès maintenant, je me confie à toi. Je refuse d'agir. Je dépends de lui pour qu'il agisse et j'entre ensuite pleinement et joyeusement dans l'action qu'il a commencée. Ce n'est pas de la passivité. C'est une des vies les plus actives que de se confier au Seigneur de cette manière. De tirer de lui la vie, de le prendre pour qu'il soit ma vie même, de le laisser vivre sa vie en moi. La loi de l'esprit de vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 et 2. C'est dans ce chapitre 8 que Paul nous présente en détail le côté positif de la vie dans l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, commence-t-il par déclarer, et cette déclaration peut au premier abord sembler ne pas être à sa place. En effet, la condamnation a été enlevée par le sang grâce auquel nous avons trouvé la paix avec Dieu et nous avons été sauvés de la colère de Romains. De la colère, pardon, de Dieu. Romains 1, 5, 1 à 9. Mais il existe deux sortes de condamnation, devant Dieu et devant moi-même. Et nous avons vu de la même manière qu'il y a deux sortes de paix. Et cette deuxième condamnation peut parfois nous paraître plus terrible que la première. Lorsque je vois que le sang de Christ a satisfait Dieu, je sais que mes péchés sont pardonnés et qu'il n'y a plus pour moi de condamnation devant Dieu. Cependant, je puis connaître la défaite et le sentiment d'une condamnation intérieure peut être très réel, comme le montre Romains 7. Mais si j'ai appris à vivre par Christ, qui est ma vie, je connais alors le secret de la victoire et que Dieu soit loué, il n'y a donc maintenant plus de condamnation. La pensée de l'esprit est vie et paix. Romains 8, 6. Cela devient mon expérience à mesure que j'apprends à marcher selon l'esprit. Si la paix règne dans mon cœur, je n'ai pas le temps de me sentir condamné, mais seulement de louer celui qui me conduit de victoire en victoire. Mais d'où me vient ce sentiment de condamnation? Ne serait-ce pas de la conscience de mes défaites et du sentiment de mon impuissance à y remédier? Avant d'avoir vu que Christ était ma vie, je souffrais du sentiment constant de mon incapacité. Mes limitations entravaient mes pas. Je me sentais désemparé à tout instant. Je criais sans cesse, je ne puis pas faire ceci, je ne puis pas faire cela. Malgré tous mes efforts, je voyais que je ne pouvais pas plaire à Dieu. Romains 8, 8. Mais en Christ, il n'y a plus de « je ne puis pas ». C'est maintenant « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Comment Paul ose-t-il être si hardi? Sur quoi se base-t-il pour déclarer que désormais, il est libéré de toute limitation et qu'il peut tout? Voici sa réponse. « Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, 2. Pourquoi n'y a-t-il plus de condamnation? Parce que il y a une raison à cela. Il y a une chose très précise qui justifie son affirmation. La raison, c'est qu'il y a une loi appelée la loi de l'esprit de vie qui s'est montrée plus forte qu'une autre loi appelée la loi du péché et de la mort. Quelles sont ces deux lois? Comment opèrent-elles? Et quelle est la différence entre le péché et la loi du péché et entre la mort et la loi de la mort? Demandons-nous tout d'abord, qu'est-ce qu'une loi? Eh bien, proprement parler, une loi est la généralisation d'un fait observé jusqu'à ce que la preuve soit faite qu'il n'y a pas d'exception. Nous pourrions la définir plus simplement comme une chose qui se répète toujours et à nouveau dans des conditions semblables. Toutes les fois où elle réapparaît de la même manière. Nous prendrons deux exemples pour expliquer cette définition. L'un dans les lois humaines, l'autre dans les lois naturelles. En Angleterre, par exemple, si je conduis ma voiture du côté droit de la route, je me ferai arrêter par la police routière. Pourquoi? Parce que j'enfreins la loi du pays. Si vous faites la même chose, vous serez aussi arrêté. Pourquoi? Pour la même raison que celle pour laquelle j'étais arrêté. C'est contre la loi du pays et la loi ne connaît pas d'exception. C'est quelque chose qui arrive de manière répétée et infaillible. Ou bien encore, nous savons tous ce que signifie la loi de la pesanteur. Si je laisse tomber mon mouchoir à Londres, il tombera à terre. C'est l'effet de la pesanteur. Mais la même chose se répétera si je le laisse tomber à Paris, à New York ou à Hong Kong. Le même fait se reproduira. Peu importe où je le laisse tomber, la pesanteur a le même effet sur tous les points du globe terrestre. Partout où existent les mêmes conditions, les mêmes effets se reproduisent. Il y a ainsi une loi de la pesanteur des corps. Maintenant, qu'est-ce que la loi du péché et de la mort? Si quelqu'un me fait une remarque peu aimable, je me sens immédiatement blessé. Ce n'est pas une loi, c'est le péché. Mais si différentes personnes me font des remarques désobligeantes et que j'ai toujours à nouveau la même réaction, je discerne alors en moi une loi de péché. Comme la loi de la pesanteur, la loi du péché est un principe constant. Les choses se répètent toujours de la même manière. Il en est de même de la loi de la mort. Nous avons dit que la mort est la faiblesse arrivée à sa limite extrême. La faiblesse, c'est « je ne puis pas ». Or, si je m'efforce de plaire à Dieu dans un cas particulier et que je trouve que je ne puis pas y arriver, et si dans un autre cas j'essaye de lui plaire et que je découvre à nouveau que j'en suis incapable, je discerne une loi qui est à l'œuvre en moi. Ce n'est pas seulement le péché qui est en moi, mais une loi de péché. Ce n'est pas seulement la mort qui est en moi, mais une loi de mort. Bien plus, la pesanteur est une loi non seulement en ce sens qu'elle est constante, qu'elle n'admet pas d'exception, mais aussi, et contrairement au code de la route, par le fait qu'elle est une loi naturelle, et non pas un objet de discussion et de décision, mais simplement de découverte. La loi existe et le mouchoir tombe naturellement à terre, par lui-même et sans aucune aide de ma part. La loi découverte par cet homme de Romains 7, 23 est exactement de la même nature. C'est une loi de péché et de mort opposée à ce qui est bon et qui paralyse l'homme qui voudrait faire le bien. Il pêche naturellement selon la loi du péché qui est dans ses membres. Il désire être différent, mais la loi qui est en lui est implacable et aucune volonté humaine ne peut y résister. Cela m'amène donc à cette question. Comment puis-je être libéré de la loi du péché et de la mort? J'ai besoin de connaître la délivrance du péché et plus encore la délivrance de la mort. Mais par-dessus tout, j'ai besoin d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment puis-je être délivré de la répétition constante de mes faiblesses et de mes chutes? Comment la loi de la pesanteur peut-elle être annulée? En ce qui concerne mon mouchoir, cette loi s'exerce clairement. Elle l'attire à terre, mais je n'ai qu'à le soutenir de ma main pour qu'il ne tombe pas. Pourquoi? La loi existe toujours. Je ne change rien à la loi de la pesanteur. En fait, je ne peux pas agir sur elle. Alors pourquoi mon mouchoir ne tombe-t-il pas à terre? À cause d'une force qui l'en empêche. La loi est là, mais une autre loi qui lui est supérieure agit et triomphe d'elle. C'est la loi de la vie. La pesanteur peut exercer toute sa puissance, mais le mouchoir ne tombera pas parce qu'une autre loi agit contre la loi de la pesanteur pour le maintenir à sa place. Et c'est là ce que nous entendons par le triomphe d'une loi sur une autre. C'est d'une manière toute semblable que Dieu nous délivre d'une loi en introduisant en nous une autre loi. La loi du péché et de la mort subsiste toujours, mais Dieu a mis en œuvre une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi est assez puissante pour nous délivrer de la loi du péché et de la mort, car c'est une loi de vie en Jésus-Christ. La vie de résurrection qui est en lui a rencontré la mort sous toutes ses formes et en a triomphé. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui agit par la vertu souveraine de sa force. C'est cette puissance qu'il a déployée dans le Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, versets 19 et 20. Le Seigneur Jésus demeure dans nos cœurs en la personne de son Saint-Esprit, et si nous lui laissons la liberté d'agir et que nous nous confions à lui, nous verrons qu'il nous gardera de l'ancienne loi. Nous apprendrons ce que c'est que d'être gardé non par notre propre pouvoir, mais par la puissance de Dieu. 1 Pierre 1, 5.